BFM Business partenaire.
BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. Tiens, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent ici, dans cette émission BFM Stratégie, c'est la consommation. Quelles sont les priorités des Français, hein, dans un climat évidemment d'incertitude, on n'arrête pas de vous en parler. Comment les Français arbitrent leurs dépenses, plus inquiets, il y a de l'inflation, puis parfois ils veulent aussi des produits plus durables. On va parler de tout ça avec nos deux experts qui sont là avec nous. Sophie Gebel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes directrice associée au BCG, experte des sujets de grande consommation, et Arthur Favreau, bonjour.
Bonjour.
Arthur, vous êtes chef de projet au BCG. Sophie, un chiffre assez important pour commencer, 73% des Français se disent inquiets de la situation politique. Bon, on s'en doutait un peu, mais c'est un record quand même, c'est un record européen. Qu'est-ce que ça révèle ?
Tout à fait. Donc ce que ce chiffre révèle, c'est qu'il y a une différence très marquée entre les Français et leurs voisins européens. Mmh. Ce chiffre, il vient d'où ? Il vient d'une étude qu'on a menée auprès de 16 000 Européens à travers 9 pays, donc la France, mais aussi le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, la Suède, la Norvège et enfin la Roumanie. Donc, on a un panorama très large des Européens et on a interrogé 1800 Français dans ce cadre-là. Et en effet, vous l'avez dit, 73% nous disent « je suis très inquiet ou inquiet par la situation politique ». C'est à mettre en regard de la moyenne européenne qui est à 57%.
Ah oui, donc c'est assez important.
On voit que l'écart est significatif. Cette tendance, c'est pas seulement sur le plan politique, on la retrouve aussi sur le plan économique. Mmh. Ils sont 70% de Français à nous dire qu'ils sont inquiets, voire très inquiets, de leur situation économique. Et là encore, c'est 15 points de plus que leurs voisins européens. C'est un écart qui, encore une fois, est très important. Ce qui est intéressant sur le plan économique, c'est que finalement, les perceptions des Européens sont très variables d'un pays à l'autre. Les Scandinaves sont très confiants. Mmh. À l'inverse, les Britanniques sont aussi inquiets que nous.
On se retrouve quand même sur quelques points.
Exactement. Pour trouver finalement une tendance qui est alignée entre les Français et les Européens, il faut se tourner du côté de la santé. Là, plus de la moitié des Français nous disent « je me sens bien physiquement et mentalement ». C'est en ligne avec leurs voisins. Mmh. Et donc finalement, tous ces indicateurs dressent bien le portrait d'un contexte qui est quand même assez compliqué pour les Français aujourd'hui et qui va avoir des impacts importants sur leur choix de consommation.
Donc du coup, ça veut dire, Arthur, que nos habitudes de consommation, on est inquiet et du coup prudent.
Alors oui, tout à fait. C'est clairement la prudence qui domine chez les consommateurs. Ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'à peine plus d'un tiers des Français jugent leur situation financière personnelle bonne. Mmh. Et ça les classe en fait en bas du peloton européen sur cet indicateur-là. Et même seulement 12% voient leur revenu augmenter dans les 6 prochains mois.
Ah oui, ça fait peu quand même.
Ouais, c'est très peu. Et donc, d'ailleurs, quand on demande aux Français ce qu'ils feraient d'un complément de revenu, la première réponse de loin, c'est l'épargne.
J'épargne, oui.
J'épargne plus, beaucoup plus que les voyages ou même les dépenses du quotidien. Mm-hmm. Donc vraiment, prudence comme mot d'ordre. Et si on se projette dans les 6 mois à venir, ce que les Français nous disent en majorité, c'est « je vais réduire mes dépenses, je vais réduire l'enveloppe globale de mes dépenses ». Et je vais même réduire sur l'ensemble des catégories de produits, mmh. même si évidemment, tout ça est à, enfin, ces baisses sont à démoyenniser entre les différents rayons.
Alors justement, ça va être quoi les arbitrages les plus marquants ?
Alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment du pragmatisme. Les pouvoirs d'achat sont contraints et donc les Français vont se concentrer sur les fondamentaux et couper sur le non-essentiel. Le non-essentiel, en l'occurrence, c'est d'abord les vêtements, mmh. c'est aussi les alcools, les snacks, et puis c'est aussi les jouets.
Ce qu'on trouve d'ailleurs dans l'économie, hein, quelque part, hein, dans les Exactement. Vêtements, on voit toutes ces chaînes qui souffrent énormément.
Oui, oui, on voit déjà ces répercussions dans l'économie. En revanche, sur l'alimentaire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des vrais choix, des vrais arbitrages des ménages. Les plats préparés, eux, sont aussi en très fort recul, et en revanche, les produits qu'on pourrait dire, les produits du fait maison, les fruits, les légumes, les produits laitiers, les pâtes, les farines, eux, sont en nette progression. Donc, ce qu'on devine derrière ça, c'est vraiment un effort des ménages de se recentrer, de privilégier la qualité de leur alimentation dans un contexte contraint.
Et mettre en avant plutôt le bien-être. En plus de, enfin, s'ils sont inquiets, ils aimeraient au moins bien le vivre.
C'est ça, c'est ça. En fait, ce qu'on devine derrière ça, c'est sans doute, derrière cette défense du bien manger, une prise de conscience plus large et qui, on l'espère, devrait durer au-delà de cette crise sur le bien-être et la santé en général, comme vous l'avez dit. Et
si on fait, Sophie, ce retour au fait maison, alors bien sûr, on peut acheter des marques, mais quand même, il y a moins de plats préparés. Ça veut dire que les marques, que ce soit les marques distributeurs, elles vont en souffrir, non?
Alors oui et non. Donc là, c'est vrai que sur l'exemple de l'alimentaire, il y a une vraie question à se poser. Alors après, sur des catégories dites brutes, on a aussi des marques de pâtes, etc. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les Français sont très attachés aux marques nationales. Mmh. Donc évidemment, ça fait plusieurs années, on l'a tous vu, les marques de distributeurs ont pris une place importante dans nos rayons, c'est indéniable. Ceci étant dit, quand on regarde par rapport aux Européens, les Français nous disent « j'achète plus de marques nationales que mes voisins européens ». Un petit exemple peut-être pour illustrer mon propos. Quand je regarde des produits d'hygiène de beauté, 48% des Français nous disent « j'achète jamais ou rarement des marques de distributeurs pour ce type de produit ». C'est 6 points au-dessus de la moyenne européenne. Et c'est la même tendance quand on se parle d'alimentaire, quand on se parle de boissons sans alcool, etc. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui est importante. La promotion est assez révélatrice aussi de cette tendance-là. Quand on regarde la position des Français par rapport à la promotion, évidemment, la promotion reste un levier clé pour transformer et sécuriser l'acte d'achat. Maintenant, on voit que les Français sont un peu moins réceptifs à la promotion que leurs voisins européens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne vont pas nécessairement changer de marque, changer de produit, juste parce qu'un produit est en promotion.
Mmh. Alors nous, on a un ADN qui porte beaucoup sur les marques quand même, en France notamment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se tourne quand même vers les marques parce qu'on a un sentiment de qualité, d'habitude souvent, qui peut être même des habitudes familiales, tout un tas de choses.
Tout à fait. En fait, les Français associent les marques nationales à une qualité supérieure.
D'accord.
Et ça, c'est très marqué dans les habitudes. Et encore une fois, ça les place un petit peu, ça les positionne un petit peu différemment versus leurs voisins européens. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi finalement les Français sont plus attachés à ces marques nationales ? Et je pense que la réponse, c'est parce qu'on a aujourd'hui des marques nationales très fortes qui sont une référence dans leur secteur, qui s'exportent d'ailleurs très bien et auxquelles les Français associent un vrai savoir-faire. Et donc, le savoir-faire qui accompagne la marque nationale donne cette perception de qualité supérieure pour toute une partie des Français.
Alors, tout à l'heure, je disais, dans nos habitudes de consommation, il y a la place aussi des produits durables. Alors, on sait que dans le domaine du numérique, que je suis beaucoup, on est beaucoup dans le reconditionnement, dans la seconde main. On remarque un peu des tendances dans ce domaine autour de tout ce qui fait l'impact environnemental.
Oui, alors, les Français considèrent l'impact environnemental, mais encore une fois, ce choix se fait sous contrainte. Ce qu'on voit, c'est que 44% des Français nous disent « oui, je regarde souvent ou systématiquement l'aspect éco-responsable d'un produit », mais seulement 18% sont prêts à payer plus cher pour ce même produit éco-responsable. Et donc, cette difficulté à traduire des intentions d'achat en actes d'achat, c'est ce qu'on appelle en anglais le « say do gap », littéralement l'écart entre ce que je dis et ce que je fais. Et on voit deux raisons principalement pour ça. La première, bien sûr, elle est économique. C'est très difficile pour des ménages dont le pouvoir d'achat est contraint de faire cet effort en plus au niveau prix.
Ça, on l'a toujours vu, c'était à l'époque des produits bio.
Exactement.
Quand on jugeait plus cher, donc du coup, ça marchait parfois un peu moins.
Oui, c'est vrai. Cette prime sur le prix, elle existe et elle est toujours présente. Et elle est importante, elle est un frein. Et puis, en deuxième lieu, et c'est sans doute plus significatif encore parce que ça devrait durer même au-delà des crises, oui, l'éco-responsabilité, c'est important pour les Français, y compris dans la consommation des produits du quotidien, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a d'autres critères d'achat qui sont au moins aussi importants et qui sont donc parfois priorisés. Le prix, bien sûr, mais aussi la qualité, la disponibilité, la praticité du produit, et puis, Sophie le disait, la familiarité à une marque ou à un produit. Donc, Je dirais que l'éco-responsabilité demeure et peut-être même est de plus en plus importante, mais ce n'est pas encore l'alpha et l'oméga du choix des consommateurs.
Et puis on fait un peu plus appel au le local, on fait un peu plus attention à ça aussi aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Alors, pour le coup,
ce que ça fait aussi des distributeurs, hein, ils disent bien, voilà, on s'est fourni à côté du supermarché, etc. Mais du coup, on est un peu plus sensible.
Oui, ça c'est vrai et c'est très marqué, en particulier en France, par rapport à nos voisins européens. Il y a des comportements éco-responsables et celui-là en particulier qui sont déjà bien ancrés. Donc sur le local, c'est 3 Français sur 4 qui déclarent privilégier le local. Donc c'est près de 10 points de plus que la moyenne européenne. Il y a aussi d'autres comportements. Par exemple, 60% des Français qui nous disent éviter les emballages plastiques.
Oui.
Et puis on a aussi un chiffre qui est assez parlant, c'est 20% des Français qui achètent souvent ou systématiquement leurs vêtements en seconde main. Oui. On est un peu le champion d'Europe de la seconde main pour le textile en France. Donc voilà, globalement, je dirais que l'éco-responsabilité est bien à l'esprit des Français dans leur consommation.
Oui, parce qu'il y a l'autre paradoxe avec, mais ça sera l'objet d'un autre débat, avec ces marques chinoises, hein, les Chine et les Temu, qui on achète beaucoup, mais qui côté durable, on peut revenir aussi dessus. Sophie, si on se tourne vers les entreprises, de quel levier disposent-elles justement pour répondre à tout ce dont on vient de parler, là, ces inquiétudes, cette prudence?
Oui, tout à fait. Donc on voit qu'on est dans un contexte économique compliqué, hein. Les volumes sont contraints quand on regarde la grande consommation. Nous, on voit 3 leviers principaux que les entreprises peuvent activer. Le premier, évidemment, dans ce contexte-là, il s'agit de sécuriser ses marges. Et pour ça, il y a un travail qui doit être fait de maîtrise des coûts le long de la chaîne de valeur. Le deuxième levier, c'est de repenser sa stratégie de portefeuille. C'est-à-dire se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, les produits que j'ai sur le marché, ils correspondent réellement aux attentes des consommateurs? Ouais. Et est-ce qu'ils ont toute la légitimité pour gagner? Il ne faut pas hésiter à faire des choix parfois un peu durs si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie. Le troisième levier, c'est l'innovation. Aujourd'hui, ça a été un petit peu moins au centre du jeu des entreprises et ça a été moins priorisé parce que justement, on est dans ce contexte assez instable, assez compliqué d'un point de vue économique. Mais ça reste un des leviers majeurs pour aller pousser de la croissance et pour aller capturer justement des opportunités de croissance.
Et alors Sophie Gebel, dans cette étude du BCG, il y a quand même quelques petits signaux quand même d'optimisme. Voilà, je regardais l'inquiétude des Français au sujet de l'inflation est en recul. Donc on est un tout petit peu moins inquiet. On reste inquiet, mais un tout petit peu moins.
Tout à fait. Donc c'est une étude qu'on mène tous les ans, l'étude dont on se parle aujourd'hui. Et c'est vrai que par rapport à il y a un an, il y a des regains d'optimisme sur un certain nombre de points assez précis. Donc, c'est le cas pour l'inflation, c'est aussi le cas, par exemple, sur les prix de l'énergie. Et donc, la question, c'est comment est-ce que le moral des Français va évoluer dans les prochains mois, et est-ce que ces regains d'optimisme, qui aujourd'hui sont assez disparates, vont permettre de globalement augmenter le moral des Français, améliorer leur moral et impacter positivement leurs habitudes de consommation.
Voilà, donc les entreprises se préparent peut-être à un retournement. En tout cas, voilà, on voulait terminer quand même sur cette note d'optimisme. Merci à tous les deux, Sophie Gebel, directrice associée au BCG, en charge et experte des sujets de grande consommation, et Arthur Favreau, chef de projet au BCG. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
Merci.
BFM Stratégie sur BFM Business.